Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 11 juin 1986.
Nous avons essayé de comprendre le rôle très important de l'Imperium et en même temps, nous avons bien vu que l'Imperium n'est pas ce qu'il faut. Certaines philosophies morales qui reposeraient entièrement sur l'Imperium, les philosophies de l'autorité. Alors ça repose entièrement sur l'Imperium. Alors que de fait, l'Imperium apparaît comme le passage de l'invisible au visible. Séparé du corps et que le corps n'était que le tombeau de l'âme, évidemment il n'y aurait pas d'impérium. Et s'il n'y avait pas d'âme et qu'avec le corps on vivrait selon les instincts, mettez Freud, mettez Platon, le contraire, qui au point de vue moral sont vraiment deux contraires. C'est ça qui est si important dans l'Imperium, au plan philosophique et au plan pratique. Parce que toute l'éducation repose sur l'Imperium. Si vous avez eu un père qui était tellement qu'ancien, qui ne vivait que de l'Imperium, et donc qui vous commandait tout le temps, d'une manière magistrale, et d'une manière comme s'il était Moïse, descendu de la montagne du Sinaï. Ça existe des pères comme ça. Freud a dû avoir un père comme ça. Ou un grand-père comme ça. Ça l'a hanté. Alors, si on a eu un père qui avait un sens de l'impérium extraordinaire, un sens de l'autorité extraordinaire, vous ne pouviez être qu'une petite souris pour essayer d'échapper à la terreur de celui qui descend du mont Sinaï avec deux cornes sur la tête, représentant qu'il a la toute-puissance de Dieu à son service. Et vous ne pouviez pas être vous-même. Vous étiez réduit à celui qui s'efface tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui s'efface. Alors il n'y a pas d'éducation possible. Il faut une coopération. L'Imperium doit nous réveiller. Un ordre, ça doit nous réveiller pour que nous prenions nos initiatives. Et pas qu'on soit à plat ventre. Parce qu'alors, si on est comme ça, tôt ou tard, vous voyez, on fait comme des petits lapins, un petit terrier, puis on file par dessous. On se cache immédiatement. Alors, ça, c'est pas du tout l'éducation. Si au contraire, on n'a pas eu de père, il n'y a pas eu d'impérium. On n'a pas eu de père, en ce sens qu'on n'a pas eu de quelqu'un qui a pris ses responsabilités, ou parce qu'il était pris par autre chose, qu'il n'était jamais là, ou parce que de fait, il n'osait pas. Il avait lui-même aussi les reins complètement cassés dans sa jeunesse. Alors, on était devant quelqu'un qui ne prenait aucune responsabilité. On a dû très jeune prendre des responsabilités trop lourdes. C'est comme le gosse qui a dû porter des poids trop lourds. J'ai déjà vu des gens qui ont pris des poids trop lourds dans leur jeunesse. Ils sont tout le temps courbés. Ils ont pris des poids trop lourds. Alors, c'est trop lourd pour eux. Ils n'arrivaient pas à les porter. Moralement, ça existe. Alors, ils n'arrivent plus à avoir leur autonomie. Vous voyez, l'impérium implique l'autonomie. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est un acte d'intelligence. Or, l'intelligence nous donne l'autonomie. Et il n'y a pas d'impérium sans intelligence. C'est la noblesse de l'impérium. C'est très grand. L'impérium, de celui qui commande et de celui qui se commande et de celui qui obéit. Si on ne sait pas se commander, on ne sait pas obéir. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas obéir parce qu'ils ne savent pas se commander. Tout simplement. Ils n'ont pas cette espèce d'autonomie suffisante. L'autonomie intellectuelle et pratique, de l'intelligence pratique. L'autonomie ne vient pas de la volonté. L'autonomie vient de l'intelligence. Et on assiste à ça aujourd'hui, puisqu'au fond, le drame de l'éducation, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus d'éducation. Parce que où on a ceux qui ont trop peur de commander, de prendre des commandes, de prendre la responsabilité du commandement, ils suivent. C'est-à-dire, ils ont abdiqué. On n'a jamais le droit d'abdiquer l'autorité. Mais on doit exercer l'autorité de manière plus ou moins miséricordieuse, d'une manière plus ou moins forte ou plus ou moins suave. Mais on n'a jamais le droit d'abdiquer l'autorité. Et pour ne jamais abdiquer l'autorité, il faut ce sens de ce que représente l'autonomie. Et cette autonomie profonde, elle se prend dans la mesure même où on est finalisé. L'acte d'imperium, l'acte de commandement, se commander à soi-même, se prendre en main, ordonner sa vie, ordonner sa journée, ordonner le travail qui nous est demandé, ainsi de suite. Donc se prendre en main. Se prendre en main exige cet acte d'intelligence pratique qui voit ce qu'on est capable de faire. Qui connaît ses fragilités, qui connaît le contexte dans lequel on est, et on essaie de faire quelque chose qui soit valable en vue de la finalité. Si on sait se prendre en main, on saura accepter l'ordre de celui qui a autorité auprès de nous. Alors, ce serait très intéressant à voir que lorsqu'on a beaucoup de peine d'obéir, est-ce que ça ne provient pas du fait qu'on n'a pas assez d'autonomie? Contrairement à ce qu'on dit habituellement. On dit, il ne sait pas obéir parce qu'il a trop d'autonomie, mais pas du tout, c'est juste l'inverse. Quand on a beaucoup d'autonomie, on n'a pas peur d'accepter que quelqu'un nous dit, mais oui, parce qu'on l'a dit, ça. Tandis que quand on a très peu d'autonomie, on a peur de tout perdre. Alors on a très très peur d'accepter, on dit, si j'accepte ça, je serai plus moi. Parce que vous n'avez pas d'autonomie. Donc, dans l'éducation, vous voyez, c'est peut-être là où il y a quelque chose à réformer dans l'éducation classique. Dans l'éducation classique, on dit toujours, il faut commencer par l'obéissance. Oui et non. Peut-être qu'aujourd'hui, étant donné l'influence du freudisme, on a perdu son autonomie. On n'a pas eu assez à lutter dans sa jeunesse pour garder et acquérir une autonomie. Et alors, quand on n'a pas assez d'autonomie, c'est très difficile d'obéir. C'est même quasi impossible. Alors la première chose, peut-être, ce serait de redonner le sens de la responsabilité dans l'orientation propre de sa vie. C'est nous-mêmes qui choisissons. C'est nous-mêmes qui avons les intentions de vie. C'est nous-mêmes qui aimons. Et par là, acquérir cette autonomie fondamentale d'orienter sa vie et le capital de vie que nous avons vers une finalité. Et à partir de là, accepter de fait, l'aide, puisque l'autorité c'est accepter un aide, l'aide de quelqu'un qui est avant nous, un frère aîné, quelques années avant nous, surtout quand l'autorité est exercée par des gens qui ne sont pas des vieillards et qui Ils sont des jeunes. Ils sont des frères aînés. Et alors, on doit comprendre qu'on fait œuvre commune, qu'on coopère. Je ne vais pas continuer parce qu'on peut parler très très longtemps sur l'Hyperio. C'est tellement important, c'est la plaque tournante, je crois, de ce que représente la vie morale en nous. Tout ce nous dans l'Hyperio. Tout ce nous dans l'Hyperio. Et je dis bien tout ce nous. Il ne faut pas dire tout commence par l'Hyperio. On serait conscient. Alors ça n'irait plus du tout. On aurait la morale d'ivoire. Avec un grand D. La morale ne voit rien au-dessus de ça. Alors que non, il y a un amour avant. Il y a quelque chose de différent. Et c'est l'amour qui relativise le devoir et qui donne la force pour accomplir le devoir. Donc, les périodes, c'est ce qui noue notre vie morale et qui permet d'unifier notre vie. Entre tout ce qui en nous dit maintenant, dans le choix, dans l'amour, dans l'intention de vie, tout ce qui en nous de réflexion, de délibération, et puis l'aspect extérieur, la vie commune. La vie commune, c'est l'aspect extérieur. Mais quand on oppose de trop l'invisible et le visible, ce que je porte en moi, et le point de vue de la vie commune, quand la vie commune devient pour moi quelque chose de terrifiant, impossible, un grand obstacle, un mur, oui, je me réfugie dans l'intériorité et le corps devient le tombeau de l'âme, la vie commune devient le tombeau de l'âme. Si je suis seul, bon, ça va très très bien, mais dès que j'ai envie commune, ça va plus. Et c'est vrai que nous pouvons ressentir ça, et quelquefois on sent avec une très très grande acuité cette opposition, elle a sa racine dans la dualité et l'unité de l'âme et du corps. Et c'est une répercussion de cela. C'est parce que notre âme n'habite pas parfaitement notre corps. Ça existe, ça. Il y a des âmes qui n'habitent pas parfaitement. Leur corps est encore un peu quelque chose d'étrange. Ils sont pas bien dans leur peau. Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, ils sont pas bien dans la vie commune. Parce que la vie commune, c'est peau sur peau. Ça va plus du tout. C'est quelque chose qui est justement très rude à porter. Oui, c'est la définition, vous savez bien, que le père de Ménas donnait de la vie commune. Deux mains qui se frottent. Vous voyez bien. Quand il fait froid, c'est très agréable. Mais au bout d'un certain temps, la peau s'use. Et ça s'exprime très bien, ce problème de l'âme qui habite le corps. Quand l'âme habite le corps, vous comprenez que la peau ne s'use jamais. Quand l'âme n'habite pas le corps, la peau s'use, les amis chers sujets. Parce que la peau, c'est justement fait pour être gardienne de la chair. Alors quand l'âme habite parfaitement le corps, ça va très bien. Mais quand l'âme n'habite pas parfaitement le corps, c'est ce qui se passe. C'est dans ce sens-là que la vie commune est toujours un critère, un signal d'alarme. Attention. Alors dans une philosophie réaliste, on doit pouvoir comprendre ce composé humain. Cette unité substantielle qui est en nous. Rien du corps n'échappe à l'âme. Rien, tout doit être assumé. Mais l'âme n'est pas absorbée par le corps. La vie commune, elle doit être transformée par notre propre personnalité. Mais notre personnalité est au-delà de la vie commune. Si notre personnalité est enfouie dans la vie commune, on ne peut plus respirer. On étouffe. Donc, revenez souvent à ce que représente l'hyperio, hein, ce petit acte d'être. intelligence commande, cette intelligence pratique d'application. Je veux être éveillé. Tous les matins, vous dites ça. Je veux être éveillé. Dès que vous vous levez. Et puis, vous le dites quelquefois, plusieurs fois par jour, n'est-ce pas ? Quand vous commencez à décliner, je veux me réveiller au début d'un coup. Hein. Je veux me réveiller. Je ne veux pas dormir. Vous lirez ce soir pour maintenir l'attention vis-à-vis de choses difficiles. Je veux être réveillé. Si au bout de 10 minutes c'est difficile, je m'endors. Comme ça passera vite. C'est vrai, rien qui passe plus vite quand on assiste à un cours de dormir. Ça passe très très vite. Mais c'est pas humain. C'est la fuite. C'est la fuite. On fuit une difficulté. Et très souvent, c'est ce qui arrive. Alors, je vais maintenant passer à une autre considération. Jusque maintenant, nous avons fait l'analyse de l'acte humain dans ses différents moments à partir de l'amour d'amitié. Et nous avons vu pourquoi nous prenions l'amour d'amitié comme expérience d'une richesse tout à fait unique. Pour essayer de comprendre la philosophie morale, alors comprenez bien que si vous n'avez aucune expérience de l'amour d'amitié, vous avez une expérience du travail. Et qu'à partir du travail, vous pourriez reconstruire toute la philosophie éthique. Ce serait suffisant. L'acte moral que vous faites maintenant en écoutant un cours, c'est un acte moral. Je veux écouter. Pourquoi ? Parce que je veux, dans tel domaine, entrer plus profondément dans la vérité. Si vous analysez cet acte, vous verrez que tous les moments de l'activité humaine sont présents. C'est intéressant à faire, du reste. Petite analyse très simple à faire. Partez du travail intellectuel que vous faites, assistez à un cours. Assister à un cours, si vous assistez d'une façon humaine, autant que possible, d'une façon intelligente, c'est pas absolument sûr. Parce que il suffit d'assister humainement. Et l'humain est par moment intelligent. Ça émerge par moment. Ça n'émerge pas tout le temps. Mais ça reste humain. Parce qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas et vous continuez de rester humain. Vous assistez au cours, vous restez. Mais celui qui, au moment, ne comprend pas, se leverait et puis partirait. Ça, c'est pas très humain, ça. Tout ce qui manque. C'est-à-dire celui-là, oui, il a de ses fantaisies assez curieuses. Et il dirait tout simplement, oh, je pars parce que je ne comprends plus. On va dire, ah non, il y a quelque chose qui manque, mais il y a la patience qui manque. Il y a le fait qu'on sait qu'il y a des moments où on ne comprend pas, puis 5 minutes après, on comprend. Donc, il ne faut pas perdre. Il faut 5 minutes après, mais il faut du temps. Si vous analysez le fait d'écouter un cours avec intelligence, et puis surtout humainement, toutes les activités humaines sont présentes. L'attention profonde de vie, l'amour, le choix, le conseil, tout y est. C'est extraordinaire, ça. C'est pour ça que nous partons de l'activité, nous partons de l'expérience de l'amour d'amitié. Parce que je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est cela qu'on doit regarder en premier lieu. Nous partons de cet amour d'amitié. Mais n'importe quel acte humain, moral, me permet de fonder toute une philosophie éthique. La philosophie éthique repose sur mon expérience morale. C'est du reste pour ça qu'Aristote dit que pour des jeunes, c'est très difficile de faire de la philosophie parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience humaine et qu'ils vivent trop dans les passions. Oui, un acte passionnel ne suffit pas. Un acte imaginatif ne suffit pas. Vous ne pouvez pas faire une théologie morale à partir de vos distractions. Qui sont très nombreuses pendant le cours. Vous ne pouvez pas. Parce que ça, c'est les miettes qui tombent. C'est plus humain. Vos distractions, c'est pas humain. C'est suffisamment lucide de fonder une philosophie humaine. La philosophie humaine représente sur le vide de mon activité morale, de mon activité humaine. Et ça, c'est très très important de se le rappeler. Hein. Et puis c'est très important d'en faire soi-même, j'allais dire l'analyse. Bon, j'ai pris l'activité, l'amour d'amitié parce que c'est central et que c'est plus explicite et que je crois que pour nous, c'est l'expérience majeure de notre vie morale. C'est le maxime étalé dans nos expériences morales. Et c'est pour ça qu'on parle de l'homme. Nous avons donc analysé tous ces moments. Nous voyons que dans le concret de notre vie, il y a constamment des failles. Il y a constamment des fuites. Je parlais de distractions. Bon, les distractions pendant un cours sont particulièrement conscientes. Il y a le cours. Et leur raison. Et leur raison encore plus que le cours, les distractions. Leur raison du matin, au début, oui, puis tout de suite. La distraction. Jusqu'au moment où on a tapé. Ah, c'est vrai. Ça va être une grande distraction. Les distractions, hein. Si on pouvait mesurer le nombre de distractions pendant nos journées. Si on avait un petit appareil hein, qui mesurait le nombre de distractions pendant nos journées, on verrait qu'il y a des moments de lucidité. Et qu'on progresse dans la mesure où les moments de lucidité prennent de plus en plus de place. C'est ça, un noviciat, c'est de prendre conscience qu'on est tout le temps distrait. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas conscience qu'ils sont distraits. Ils pensent qu'ils vivent. Mais ils sont complètement distraits. Et puis ils favorisent la distraction. La télévision, ça ne favorise la distraction. C'est bien évident. Là, c'est une distraction volontaire, donc j'ai plus des distractions. C'est une détente. Mais au fond, c'est une distraction. Sauf si on le fait avec intelligence et qu'on sait qu'on le fait dans telle perspective. Et mesuré. Mais la plupart des gens, c'est pas comme ça du tout. Alors, pourquoi ces distractions? Comment viennent ces distractions? Vous savez bien, Plotin commence une des six Énéades, je crois que c'est 5-2, sur ce fait, pourquoi es-tu distrait? C'est une très belle question. Pourquoi es-tu si souvent distrait? Pourquoi te laisses-tu aller à la distraction? Alors qu'il y a en toi quelque chose de divin, dit Plotin, qui te permet d'être en connaturalité avec la source de ton être, de ta vie, de ton esprit. Pourquoi cette distraction constante? Alors évidemment, Plotin a beau jeu en bon néo-platonicien en disant « ce sont nos sensations ». Ce sont nos sensations qui constamment nous mettent en contact avec le sensible, avec la multiplicité sensible, et qui font qu'on perde le sens intérieur. Je crois qu'on peut préciser. C'est l'influence de l'imaginaire dans notre vie. C'est pas la sensation. La sensation comme telle ne distrait pas. Elle est bonne, même, la sensation. Mais c'est l'imaginaire. Confusion, vous voyez, je suis Plotin entre l'imaginaire et la sensation. C'est l'imaginaire qui intervient, alors c'est ici au niveau des vies de comprendre ce que représente l'imaginaire. vie morale. Et je dis bien l'imaginaire dans notre vie morale. Parce que je peux regarder l'imaginaire au niveau de la philosophie du vivant. Je peux regarder l'imaginaire au niveau de la métaphysique. C'est pas la même chose. Je peux regarder l'imaginaire au niveau de la philosophie artistique. C'est pas la même chose. Je prends l'imaginaire du côté de la philosophie morale. Quand on vous demande de parler de l'imaginaire, faites toujours grande attention. L'imaginaire se traite en fonction de nos niveaux de vie. Et non pas en soi. Parce que l'imaginaire en soi, ça n'existe pas. C'est très curieux, ce domaine de l'imaginaire, et c'est très important. Alors, essayons de saisir, non pas ce qu'est l'imaginaire, c'est en philosophie du vivant, ce qu'est l'imaginaire, mais la place de l'imaginaire dans notre vie morale. Toutes les déviations possibles que l'imaginaire opère en nous, ça nous pouvons les dénombrer, les saisir, toutes les déviations. Quand vous êtes sur l'autoroute, l'imaginaire fait que vous oubliez de sortir au bon moment. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui bavarde et qui vous met dans un climat qui est tout à fait autre que ce que vous faites, vous oubliez. L'oubli. L'oubli, c'est l'imaginaire. Ça arrive d'oublier. Alors vous interprétez l'oubli. Si vous êtes avec un psychanalyste, vous interprétez l'oubli. Et vous dites l'oubli, c'est un acte manqué. Et cet acte manqué exprime quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer parce qu'il y avait un obstacle. Alors vous exprimez quelque chose. Alors c'est des interprétations. Quelquefois c'est vrai, quelquefois c'est pas juste. C'est toujours très difficile. L'oubli. Quand vous êtes fatigué, vous oubliez beaucoup plus de choses que quand vous êtes moins fatigué. Ça, je crois. Moi, c'est un signe de fatigue, l'oubli. C'est pas uniquement ça, mais l'oubli augmente avec la fatigue. Ça, c'est très net. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que quand vous êtes fatigué, vous devez mobiliser toutes vos forces vers le but important. Et vous maintenez ça. Et quand vous êtes très fatigué, vous n'avez plus qu'un seul objectif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler à ses supérieurs quand ils sont fatigués. Parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif. Ils tiennent uniquement par ça. C'est comme quelqu'un qui est dans un combat et qui sait très bien que ses forces diminuent. Alors, il n'y a plus qu'un seul objectif. Quand les forces sont fortes, on peut avoir divers objectifs. Tandis que quand on est dans la lutte et qu'on sait qu'on n'a plus beaucoup de force, on ramène tout à un seul objectif. Quand on est fatigué, c'est ce qui se passe. Et alors, on laisse tomber, mais automatiquement, c'est une mesure de défense. L'oubli devient une mesure de défense pour maintenir ce qui est essentiel. Mais le reste, on doit prendre l'importance. On laisse tomber. Donc, quand je dis ça, les interprétations de l'oubli sont très différentes. Que si vous regardez uniquement l'inconscient, c'est tout à fait autre chose. L'oubli est imaginaire. Le domaine de l'imaginaire, ce sont des gouffres. L'oubli, c'est un gouffre. C'est une béance imaginaire qui subitement se présente à vous, qui vous prend, vous saisit. Vous avez d'autres choses. L'exubérance, c'est juste l'inverse. Ah, vous êtes euphorique, mais après un bon repas, vous êtes euphorique, tout en rose, mais après avoir rencontré quelqu'un que vous aimez, vous êtes euphorique. L'euphorie augmente l'imaginaire. Ah, c'est juste l'inverse de la fatigue. Et alors vous voyez tout en rose, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Des tas de choses qui viennent. Et quelque de l'euphorie. Vous avez rencontré deux amis. Oh, je ne les ai pas rencontrés depuis 20 ans. Le goût. L'impériaux du goût. Impératif catégorie du goût. Normalement, on sait qu'on doit être là à telle heure. Mais l'euphorie a complètement télescopé ça. Comme c'est curieux que l'imaginaire est du côté négatif de l'oubli et du côté positif. Ce qui montre que l'imaginaire n'est ni positif vers le bien, ni négatif. Il est neutre, a d'une neutralité extraordinaire par rapport à la morale. D'une neutralité extraordinaire, l'imaginaire. Mais il n'est pas du tout neutre.
Des brumes du soir, c'est l'imaginaire.